Bon matin tout le monde, il est précisément 9h, nous sommes mardi, le 10 août, c'est la journée la plus cheap de la journée, c'est quoi? La moins chère?
Ben oui, le 10 août, l'autre jour, c'est quoi, t'as le sorti le 4 août?
Le 4 août.
Oui, il y avait le 4 août.
Là. Bien, le 4 août, puis après ça va être la miaou, c'est la journée des chichas. En tout cas, le mois d'août, on peut jouer.
Il y a le sens de l'humour, le mois d'août.
On peut jouer avec beaucoup.
Ben oui.
Et mois d'août qui est très chaud, très, très humide aujourd'hui, Félix-Antoine, on va avoir, semble-t-il, avec l'humidex, 40-41 degrés. Dans la vallée, puis ça va se répéter encore demain mercredi. Ça semble vouloir couper un peu là, au niveau de la fin de semaine avec du beau temps. Donc, okay. Revenir à la normale.
Bon, ça va faire du bien parce que c'est un peu collant. Là. Je regardais les. Tu sais, ceux qui travaillent dehors sur les routes ou à la cité étudiante, il y a des travaux. Là. L'autre jour, j'en ai croisé un gars, il disait. Fait chaud, hein? Il dit, je travaille sur le toit de l'école secondaire
à Maniwaki.
J'allais
dire, sur les toits, l'asphaltage.
Ah oui, oui, oui. C'est pas...
Dans
les
casse-croûtes, ça doit être chaud, tu sais, au-dessus
au-dessus
d'un poêle, un four à pizza, là,
ouais, ouais, ouais. Ah non, il y en a qui, on leur lève notre chapeau de ce temps-ci, c'est pas facile.
On vous salue, ce monde-là. On a un gros bulletin d'information à 9h. Premier ciné-parc aquatique, ça se passe au lac des 31 000.
Le 28 août prochain, la mise à l'eau de Bouchette. La corporation du parc régional du lac 31 000 tiendra sur le coup de 18 ans sa toute première édition du ciné-parc sur l'eau. Au programme, deux courts-métrages, dont le majestueux lac 31 000 et l'épisode web sur le lac des 31 000, précéderont le film, le classique « Les dents de la mer ». Tout type d'embarcation nautique sera les bienvenus et pourra servir de loge aux cinéphiles aventuriers. Kimberly Mason, directrice générale de la Corporation du parc régional du lac des 31 000, mentionne que des zones seront aménagées pour les différents types d'embarcations.
On va désigner une zone plus près de l'écran et plus balisée pour les embarcations non motorisées, donc canots, planches à pagaie et j'en passe. Et un peu plus loin, à l'ancre, tout ce qui est bateau motorisé. On va avoir un certain système de base de cordage dans laquelle on peut s'attacher, mais l'idéal, c'est d'avoir son propre ancre de bateau pour vraiment s'assurer qu'on reste en place.
Ce son sera également diffusé là sur les ondes radio pour permettre aux bateaux qui seront ancrés plus loin d'écouter la programmation à l'aide de leur radio. Madame Mason estime que l'événement pourra se tenir malgré la venue là, des mesures sanitaires plus restrictives. Le port du masque sera conseillé à la mise à l'eau des embarcations, mais déconseillé une fois sur l'eau afin de prévenir les risques de noyade. Les gens seront invités à faire le port de leur... en fait, à porter leur veste de flottaison, comme le mentionne Madame Mason.
On est sur l'eau, donc tout ce qui est nécessaire, le veste de flottaison. La réglementation nous dit qu'elle doit être à portée de la main. Nous, on préconise surtout le port, vraiment, de la veste de flottaison. Et puis, tout le code de bon conduite de l'embarcation s'applique. Donc, on évite d'être sous l'effet de l'alcool, drogue ou médicaments, ainsi de suite. D'être vraiment en état de bien contrôler son embarcation, peu importe les événements, c'est super important.
À la suite de l'événement, la corporation du lac des 31 000 aimerait profiter de l'expérience pour refaire une version améliorée de son ciné-parc aquatique dans les années à venir. En cas de pluie ou de mauvaise température, l'événement sera devancé au 27 août à la même heure. Actuellement, on reporte un événement, il sera devancé. Donc, si on prévoit de la pluie le samedi, ça aura lieu le vendredi.
Bon, ben c'est bien. Concernant le meurtre à Kitty Gansby, le conseil de bande pourrait évincer de son domicile la fille de Shannon Ferguson.
Le conseil de bande de Kitty Gansby aurait l'intention d'évincer de son domicile la fille de Shannon Ferguson, cette résidente de Kitty Gansby qui aurait été assassinée par son fils en juillet dernier. Dans une lettre adressée au père de la jeune femme, Patrick Hodgick, et signée par le chef de la communauté, Dylan White Duck, il a indiqué que le domicile de la rue Kakami, dans laquelle elle réside, est une unité de location qui n'est pas destinée à la vente. Cette lettre fait suite à des démarches entamées par la famille de la jeune femme dans le but d'acheter la résidence où elle restait avec sa mère depuis 2009. Des membres de la communauté se sont rassemblés hier devant les bureaux administratifs de Kitty Gansby et ont recueilli des signatures toute la journée pour démontrer au conseil de bande le mécontentement de la communauté face à la possibilité que la fille de Shannon Ferguson, Abigail, soit évincée de son domicile. Patrick Hodgick, le père de la jeune fille, était présent pour l'occasion. D'abord contrarié par la lettre qu'il a reçue, M. Hodgick se dit optimiste quant à une future rencontre qu'il aura aujourd'hui avec le conseil de bande. On l'écoute.
J'étais fâchée car c'était simplement un nom et je n'ai pas eu l'autorisation d'être présent au moment de la décision. Ils m'ont dit qu'on allait avoir une rencontre demain. Nous allons voir comment ça va aller. Nous ne savons pas encore quelle va être la décision, mais je crois que ce sera positif.
Présente à la manifestation et s'occupant d'une pétition qui sera adressée au conseil de bande, Alexandra Bracoupé, voisine de la défunte, précise ce pourquoi il est important pour la communauté de se mobiliser.
Le conseil de bande a refusé de la laisser continuer d'y vivre ou d'acheter la maison. C'est la seule maison qu'elle a connue et nous sommes ici aujourd'hui pour protester, pour s'assurer que notre voix et celle d'Abigail est entendue et que les enfants de notre communauté ne deviennent pas sans abri si quelque chose devait arriver à leurs parents. Jusqu'à maintenant, nous avons la signature de près de 400 membres de la communauté.
Madame Bracoupé estime que les enjeux liés aux maisons louées par le conseil de bande sont multiples et espère que la mobilisation d'hier servira à les dénoncer.
Abigail n'est pas la seule dans cette situation. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans ces unités. Il y a un certain temps, c'était supposé faire partie d'un programme pour louer, puis acheter une maison pour les personnes qui n'avaient pas les ressources pour construire une maison. Le conseil a refusé de continuer le projet. Les gens ont investi dans ces maisons pour plusieurs années en mettant leur temps, leur argent et leur cœur. Si quelque chose arrive à n'importe lequel de ses parents, les enfants deviendraient sans abri. Et c'est quelque chose que nous n'accepterons pas.
La résidence d'Abigail fait partie d'un ensemble d'habitations construites entre 2002 et 2010. Selon le conseil de bande de Kitiganzibi, ces résidences n'ont jamais été louées dans le but d'être vendues, comme le laissent entendre les organisateurs de la mobilisation. Il est également indiqué que les élus sont conscients qu'il s'agit d'une période difficile pour Abigail et que cette décision n'est pas prise de gaieté de cœur, mais qu'elle est nécessaire afin de faire respecter la réglementation en vigueur à Kitiganzibi. D'ailleurs, on tentera d'obtenir les détails de cette rencontre qui se tiendra aujourd'hui entre la famille et le conseil de bande là, pour avoir la suite des choses.
Parfait. Maintenant, arrêter la prestation canadienne de la relance économique n'aiderait pas à la pénurie de main-d'œuvre, selon le Conseil national des chômeurs et chômeuses.
La semaine dernière, la Chambre de commerce, dans les dernières semaines, la Chambre de commerce de Maniwaki et Vallée de la Gatineau a adopté une résolution demandant l'arrêt de la prestation canadienne de la relance économique qui a été acheminée au bureau du député de Pontiac, William Amos. Selon des membres de l'organisation, la prestation nuirait à la reprise économique de la région en contribuant à la pénurie de main-d'œuvre. Néanmoins, selon Pierre Séré, les porte-parole pour le Conseil national des chômeurs et chômeuses, l'arrêt de la PCRE ne serait pas la solution. Selon M. Séré, les personnes qui bénéficieraient de ce programme seraient majoritairement des travailleurs autonomes dont le domaine d'expertise ne répond pas à la demande des employeurs. De plus, le montant octroyé serait insuffisant pour convaincre les prestataires de s'en contenter. On l'écoute.
La PCRE, parlant de désinformation, c'est sérieux quand je dis que ça a été baissé à 300$ par semaine. Écoute, on ne vit pas avec 300$. On survit avec 300 $. Alors, couper la PCRE à ce monde-là qui n'ont d'autres alternatives en ce moment, ben, c'est de les envoyer à la misère. Ou c'est de leur dire ce dans quoi vous êtes investi toute votre vie, dans votre profession comme travailleur autonome, jetez ça aux poubelles. Ben, allez travailler dans un champ, allez travailler dans un magasin.
S'il mentionne néanmoins que la pénurie de main-d'œuvre est un problème réel auquel il faut remédier, M. Séré précise qu'il serait de la responsabilité des employeurs de rendre leur emploi plus attrayant en donnant un meilleur salaire, notamment.
Je peux vous dire, par exemple, que l'usine de transformation du bois qui est à Boisfort, elle paye bien ses employés, pas ceux qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Et vous êtes une région aussi qui, même avant la crise, le taux de chômage demeurait élevé parce qu'il y a besoin de création d'emplois par chez vous, puis d'industries qui ne sont pas juste saisonnières. Alors, les employeurs, là, ils devraient respecter le monde parce qu'ils veulent du monde qui aime ça travailler chez eux, ils devraient aussi respecter leur main-d'œuvre. Puis les gens veulent travailler. Il faut faire confiance aux gens. On ne bâtit pas sa vie avec un chèque de chômage.
Maintenant, Félix-Antoine, les trois courses du défi coureur des bois sont annulées.
La santé publique a publié fin juillet une mise à jour des exigences requises pour les activités où les participants suivent un parcours ou un circuit. Le pôle d'excellence en récréotourisme de l'Outaouais a pris donc la décision d'annuler les trois défis coureurs des bois, puisqu'il serait difficile de répondre à ces exigences. Marlène Tonnard, présidente du PERO, mentionne que les heures de départ doivent être distribuées à l'avance, ce qui est difficile étant donné que plusieurs s'inscrivent le jour même. De plus, les regroupements ne sont pas autorisés et le port du masque est obligatoire lorsque les participants sont en mouvement sur le terrain, ce qui devient une tâche de surveillance complexe à accomplir. D'autres éléments s'ajoutent à cela, comme le précise la présidente du PERO.
Ils nous disent aussi qu'il faut y avoir des installations sanitaires partout sur le parcours. Écoutez, on est dans des sentiers de bois. On a une toilette dans le stationnement au départ, c'est tout. Donc, encore là, nous ne serions pas conformes. Un des problèmes aussi, c'est qu'on ne peut pas prévoir le nombre de participants. Et on nous dit aussi que le site doit avoir une superficie minimale de 5 mètres carrés par personne admise. Comment voulez-vous qu'on applique ça? Dans deux des trois sites, en tout cas, c'est impossible à appliquer.
Marlène Tonnard précise également là, qu'il y avait un manque de ressources humaines et financières pour assumer la mise en place de ces mesures. Les quelques participants qui s'étaient déjà inscrits seront remboursés. L'équipe du PERO est désolée pour cette situation.
On s'excuse auprès des gens qui étaient vraiment décidés, emballés à venir participer à notre activité. On est vraiment désolés pour la déception qu'on apporte à plusieurs des participants. Si je peux me permettre un petit éditorial, je pense que plus les gens seront vaccinés et décideront d'aller se faire vacciner, plus on va avoir des chances de retrouver une vie normale.
Les gens sont invités à réaliser les parcours en solo ou en petit groupe en attendant le retour de l'événement prévu à l'été ou à l'automne 2022. Rappelons que les courses devaient se dérouler les 15 août et 5 et 26 septembre, respectivement dans les sentiers de Grand-Remous, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau et Cayama.
Voilà, gros bulletin. Félix-Antoine, on a un autre compté 10 heures, puis on se rencontre pour en jaser à 9h30.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer.